Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, nous sommes au cœur du Festival des Correspondances de Manosque et nous retrouvons François Malabave et ses invités du jour pour cette émission. Bonjour François.
Oui, bonjour à tous. Et on ouvre cette émission, comme d'habitude, par le programme de cette journée, ce week-end très particulier, avec un petit peu de pluie, j'y reviendrai. Et c'est le co-directeur du festival, Olivier Chaudançon, qui s'y colle. Olivier Chaudançon, le week-end et la clôture des correspondances.
Un samedi qui démarre classiquement, avec les apéros littéraires d'un côté, mais aussi des propositions plus inattendues de l'autre. À 11h, la projection du film Les années Super 8, qui est un film d'Annie Ernaux et de son fils. Et puis à 11h toujours, une rencontre au Paraïs, Emmanuel Lambert. Nous tenions à rendre hommage à Jacques Meny. Emmanuel Lambert a beaucoup travaillé sur l'exposition Giono au Mucem. Elle a ainsi beaucoup côtoyé Jacques Meny. Et elle va inventer quelque chose qui permette de l'évoquer, d'évoquer évidemment Jean Giono. Et puis l'après-midi, on commence à 14h30 par un trio de jeunes auteurs, Claire Baglin, Adrien Bels et Diaty Diallo. Deux premiers romans, un deuxième roman, les siestes littéraires évidemment, et légèrement décalé à 15h, on pourra choisir d'aller écouter Lucas Bellevaux en dialogue avec Emilienne Malfatto, ou alors Grégoire Bouillet avec son phénoménal livre Le cœur ne cède pas. Certains se souviennent du dossier, il y avait eu une rencontre éblouissante ici il y a 3 ans, je crois. Et là, Le cœur ne cède pas est tout aussi étonnant, 900 pages, mais il ne faut pas être effrayé. C'est vraiment un grand livre sur la littérature, sur l'écriture, sur la condition humaine. C'est tout à fait époustouflant, mais il faut prendre le temps de le traverser. À 16h30, on pourra écouter Chloé Cormand en dialogue avec Lola Lafont. Chloé Cormand évoque ses petites nièces, enfin ses ancêtres qui ont été déportés. Elle fait une sorte d'enquête là-dessus. Quant à Lola Lafont, elle a passé une nuit au musée, le musée étant la maison Anne Frank. Elle va nous raconter tout ce qu'elle a perçu dans cette nuit-là et tout ce que ça lui fait remonter aussi de souvenirs autobiographiques. Nous pourrons aussi écouter Emmanuel Bayamaktam à la même heure, ou alors Brigitte Giraud, ou encore Jean-Yves Jouannet qui a imaginé un personnage fictif qui échange des lettres avec Marcel Proust, ou enfin Pierre Ducrozet qui vient nous faire découvrir son nouveau livre sous la forme d'une lecture musicale accompagnée par Rubin Steiner. À 18h, Yannick Enel qui revient avec un livre lumineux, qui s'appelle Le trésorier payeur. C'est l'histoire d'une sorte de banquier anarchiste qui est à la fois dans des épiphanies érotiques et aussi dans des mouvements de générosité, de redistribution, et qui découvre un tunnel qui mène jusqu'à la banque. Enfin bon, voilà, je vous donne quelques bribes pour vous donner envie d'aller dans ce livre. À la même heure, un dialogue entre deux jeunes autrices de premier roman, Maria Larrea et Paulina Panasenko. Ou encore un dialogue entre Lucie Rico et David Lopez. Et puis à 18h, Fab Caro, qui vient, on connaît très bien ses dessins, mais là il vient pour un livre sans dessin, pour son nouveau roman. 19h15, Dominique Anet, en lecture musicale de son recueil de poésie, le premier. 21h, soirée François Truffaut, puisqu'on va faire entendre les lettres de François Truffaut aux écrivains, et c'est le formidable comédien Nicolas Bouchot qui va nous faire entendre ça. Il était venu il y a quelques années pour le texte d'Ahmed Altan, et c'est un des meilleurs lecteurs que je connaisse, voilà, pour faire entendre un texte. Et nous finirons la soirée à 23h en musique avec Malik Djoudi, qui va croiser son répertoire et des textes de la littérature qu'il apprécie particulièrement. Et puis le festival se poursuit le dimanche. Apéro littéraire à 11h, à nouveau du cinéma avec Léo de Hurlevent, donc un documentaire sur ce livre culte. Et 11h, rencontre avec Christophe Onodibio qui vient nous parler de son nouveau roman. À midi, Anna Hope, grande autrice anglaise qui vient nous parler du Rocher Blanc. 14h30, sieste littéraire. 15h, rencontre avec Rachel Kusk, d'une part, ou alors Pauline Delabroix-Allard en dialogue avec Victor Gestin. Dernière série de rencontres à 16h30, Olivier Adam, bien connu des Manosquins, ou alors Jared McGuinness, qui est un Américain de Marseille. Il s'est installé à Marseille il y a peu. À 16h30, toujours un dialogue entre deux premiers romans, Dominique Sélis, belgo-rwandaise, et Anthony Passeron. 16h30 encore, Marie Nimier pour une lecture musicale de son livre, musicale parce qu'elle sera accompagnée par quelqu'un qui joue de l'orgue de cristal. Et puis nous finirons en beauté, en puissance, avec le texte de Virginie Despentes, « Cher connard », qui sera lu à trois voix avec Anna Mouglalis entourée de deux jeunes comédiens.
Le programme de ce beau week-end d'Olivier Chaudançon. Mais lorsque nous avons enregistré ce message, eh bien, nous ne savions pas que la pluie s'inviterait aux correspondances. Alors, quelques informations sur justement les conditions météorologiques. Des manifestations ont été décalées et évidemment, par exemple, la rencontre avec Emmanuel Lambert et l'hommage à Jacques Méni qui était prévu au Paraïs en plein air, évidemment, est reportée. Elle aura lieu à 11h exactement, mais au centre Giono, à l'abri donc, sans aucun problème. Et puis il y a aussi un apéro littéraire qui était prévu et qui est prévu toujours à 11h sur la place de l'hôtel d'Herbès. Celui-ci aura lieu à l'auditorium de l'école de musique qui est juste à côté. Il y a des panneaux qui vous indiquent, si jamais vous arrivez à Manosque et si vous l'ignorez, à quel endroit se trouvent les manifestations en question, la pluie qui devrait se calmer cet après-midi. Donc nous verrons ça bientôt. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour cette partie magazine et c'est un premier roman remarquable que publie Claire Baglin. Elle publie En salle aux éditions de Minuit, un livre apparemment autobiographique qui procède d'un mouvement d'aller et retour entre enfance innocente et vie active d'une adulte. Le décor principal est commun, c'est un fast-food américain où l'enfant déjeune en famille avec beaucoup d'excitation et où, adulte, elle subit la dureté du travail aliénant. La famille, Jérôme, un père ouvrier, bon bricoleur, une mère aux allures de mégère, Nico, le petit frère, et la narratrice avec qui il forme une équipe éphémère des bons et mauvais moments, sans oublier des grands-parents dans leur univers repoussant et hostile. Et tout de suite, avant de postuler à un emploi, des souvenirs d'enfance de Claire Baglin. C'est un extrait de son livre, tout simplement. Là, on s'installe là. Les parents nous suivent jusqu'à une table de bar au milieu du restaurant. On jette nos manteaux sur les tabourets et ils retombent. On ouvre les emballages, mais maman nous arrête. On va aux toilettes d'abord. Alors qu'on court vers la dernière étape qui nous sépare de la béatitude, maman parvient à retenir Nico par la manche. Il n'a plus rien d'humain. Ses cheveux sont ébouriffés par l'électricité statique du manteau retiré. Ses joues sont rouges, ses lacets traînent encore au sol et son pull est à l'envers, l'étiquette luisante de salive. Son visage est une énorme contrariété. Il est fou. Il veut en finir. Dans ses yeux brillent encore les nuggets qu'il a entrevus. Je pousse la porte des toilettes et Nico la retient de toutes ses forces. Nous crions parce que nos voix résonnent. Maman tient la porte derrière nous et se retourne. Voit mon père attaquer ses frites, la lanière de sa sacoche enroulée deux fois autour de son poignet. Nico est déjà loin. Je rince mes mains et en sortant, le battant que je pousse vient buter contre une plante verte. Elle se renverse à demi. Derrière moi, maman se fâche comme elle sait le faire dans les lieux publics. Non mais c'est pas possible, fais attention un peu. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bonjour Claire Baglin.
Bonjour.
C'est du vécu.
C'est du vécu, ça pourrait ne pas l'être. J'ai souvent, en tout cas, ce que j'aime bien souvent dire, c'est que ça pourrait être aussi bien un vaste mensonge que... Je pourrais autant dire ça que tout est vrai finalement. En fait.
On va garder le mystère alors, bien si sûr. Vous voulez bien. Mais en tout cas, il y a des choses en filigrane dans votre livre qui sont magnifiques. Là, on l'a vu, ce sont des enfants qui vont à la fête. Quoi. C'est la sortie au McDo. Enfin, je suppose que c'est un McDo. Je ne sais pas si c'est cité, mais en tout cas, bon, ils sont tous pareils de toute façon. C'est la fête, véritablement. Et là, on sent la famille qui est submergée par... par le dynamisme, l'enthousiasme des enfants.
Oui, tout à fait. C'est une vraie, un vrai événement, une vraie occasion, en tout cas à ce moment-là. Mais c'est vrai aussi que, en fait, cette scène ouvre le roman, vient faire en fait une alternance avec l'entretien d'embauche de la narratrice du côté du fast-food, mais de derrière le comptoir, on pourrait dire. Et les enfants ne retourneront plus au fast-food puisqu'ils en sortent pour ne plus jamais y retourner de tout le roman. Il y a vraiment un caractère d'occasion et d'exceptionnel qu'on retrouve pas du tout dans les autres souvenirs, et là on rentre davantage dans ce qui pourrait s'appeler leur vrai quotidien d'enfant, en fait.
Alors effectivement, et c'était volontaire, vous vous en doutez, j'ai gommé la première partie qui est ce dont vous parlez, l'entretien qui ouvre votre récit. Elle se fait embaucher et puis elle est encadrée par Chouchou. Alors Chouchou, c'est une manageuse qui est plutôt, on va dire, bien dans le système. Chouchou, il y a de très beaux portraits dans votre livre, et je vais vous lire le portrait de Chouchou, nous allons y revenir après. Chouchou, donc c'est son employé, son employeur, pardon, c'est sa manageuse, et la narratrice est embauchée au fast-food. Chouchou a peur que je m'ennuie, alors elle me propose des activités. Faire un tour de balayette, changer les poubelles comptoir, elle veut savoir si ça ne me dérange pas de nettoyer les toilettes. Je n'ai pas le temps d'y aller, qu'elle se tourne vers une autre équipière et lui dit « Mais c'est pas possible, tout le monde sait le faire, pourquoi pas toi ?» Si je t'évalue, je te mets même pas la moyenne. Changer une poubelle en plein rush, mais c'est n'importe quoi. Comme elle ne connaît pas mon prénom, elle ne m'apostrophe pas, et quand elle n'en peut plus qu'un enfant a renversé une boisson, elle m'appelle la Miss. Chouchou enfile le tablier de la partie café du lobby et prétend qu'elle est débordée par une autre tâche. Elle encaisse le client et s'en plaint auprès d'une équipière. « Tu vois, ça faisait 2 minutes qu'il attendait et j'ai été obligé de m'en charger. C'est pas possible, ça. Dès que quelqu'un attend, il faut l'encaisser le plus vite possible. » Chouchou dit « Tu me feras le tour de... J'ai envoyé machine sur les tables. Tu me fais les toilettes, tu me fais les tables, tu me fais les boiseries avec un petit chiffon. Nous travaillons dans le salon de Chouchou. » Un personnage omniprésent.
Effectivement, il peuple tout un chapitre qui s'appelle d'ailleurs « En salle » comme le roman, et c'est un passage sur le centre même du fast-food, puisque en fait ce roman est vraiment divisé par les différents postes auxquels est affectée la narratrice, et il y a vraiment ce chapitre-là en salle où en fait on apprend, on découvre un poste un peu ambivalent, puisqu'il y a effectivement ce que j'appelle les périodes de rush, forcément avec les midis, mais aussi les longues périodes d'attente qui suivent et qui sont insupportables, et où Chouchou est très présente puisque c'est la manageuse de la salle, et donc un personnage qu'elle côtoie fréquemment puisqu'elle s'y trouve souvent.
Et le client est roi, il ne faut surtout pas perdre de temps, il faut le satisfaire rapidement et que l'argent rentre dans les caisses. Exactement. Et alors plus loin, vous avez une belle phrase aussi, c'est « Chouchou est une sorte d'automate qui fait chaque jour son tour de piste ». C'est magnifique, mais c'est aussi quelque part un vrai flic.
C'est une sorte de... Ouais, moi, j'aimais bien l'imaginer en articulé, puisqu'il y a vraiment une sorte d'aller et de retour comme ça, où elle va fumer sa cigarette à l'extérieur, elle revient. Il y a quelque chose de vraiment, en fait, très tournant, en fait, et même dans les gestes de l'équipier. L'équipier qui refait un peu chaque jour les mêmes choses, qui a ses affectations. Il y a vraiment quelque chose qui devient complètement autonome et presque indépendant de la personne qui les fait, en fait. C'est des gestes qui vont être répétés sans aucune appropriation même de ce geste.
Alors c'est un livre sur l'aliénation dans le travail et le symbole de l'aliénation, et on pourrait dire même de la malbouffe, ce sont les frites. Et vous dites par exemple « aux frites, l'automatisme m'empêche de réfléchir ». C'est évident.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose, c'est que l'automatisme empêche de réfléchir, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça prend en charge la pensée. C'est-à-dire que les périodes de vitesse ne sont pas les plus difficiles au fast-food, c'est véritablement les instants de pause et les moments justement en salle où il y a un grand espace vide à un instant qui forme en fait vraiment une sorte d'angoisse, on pourrait dire. Alors que les moments de vitesse et de rush sont, eux, pour le coup, presque inexistants en fait, du point de vue de la pensée.
Alors, vous l'avez dit, elle est manageuse, Chouchou. Et puis, il y a un instant crucial, ça s'appelle l'évaluation, comme à l'école d'ailleurs, de la manageuse. Elle ne la signera pas et finira dans l'eau stagnante. C'est de la lassitude ou c'est de la révolte ?
Je sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de révolte du côté de la narratrice dans ce roman. C'est quelque chose qui est assez peu présent. J'avais très envie de garder justement cette passivité-là intacte, puisque quand on rentre dans un travail, enfin en tout cas, quand moi je suis rentrée dans un travail, et quand la narratrice de ce roman rentre dans un travail, elle n'est pas du tout dans une perspective de révolte, elle est plutôt dans une acceptation, enfin dans l'acceptation même de ce qui va être son travail pour plusieurs mois. Mais ce que vous dites sur l'évaluation, ça m'intéresse parce que ça me rapporte aussi à l'enfance, aux enfants qui se font noter à l'école en quelque sorte, parce qu'effectivement les employés du fast-food sont notés sur certaines tâches, comme les enfants pourraient l'être et redouter la mauvaise note qui pourrait tomber.
Donc on imagine aussi des jalousies entre les salariés, et toi t'as eu 17 et moi j'ai eu 15, etc. etc. Donc c'est une manière de manager le personnel un petit peu particulière et en même temps qui est, je crois, quelque part interdite par la loi, et c'est une bonne chose. En tout cas, on n'écrit pas et c'est difficile de faire signer une évaluation à un personnel, et c'est une bonne chose. Alors vous l'avez dit, votre livre, il est construit en fait en quatre chapitres. L'entretien, tout d'abord, qui ouvre ce livre, en salle, le bien nommé, puis dans l'huile, là on est dans les frites, vous l'avez compris, et puis au drive. En salle, ne vous voudra pas, Claire Baglin, l'estime des KFC, McDo et autres Quick, mais vous ouvre les portes de la reconnaissance littéraire, comme ici à Manosque. Vous appréciez ?
Mais je suis ravie en tout cas que le roman trouve son écho et suscite un peu d'enthousiasme, en tout cas surtout sur l'alternance. En fait, je suis très ravie de pouvoir parler en fait d'écriture aussi et de comment les deux s'entrelacent, et ça me touche beaucoup. J'apprécie
l'écriture, bien sûr, mais aussi le sens de votre livre, qui est un livre particulier, qui nous éclaire sur l'univers des fast-foods et plus largement sur celui du travail. Votre livre aussi, Claire, est cité actuellement pour plusieurs prix littéraires. Là aussi, c'est une reconnaissance pour vous.
Bah oui, effectivement.
Alors évidemment, on attend votre second opus. Il y a quelque chose qui est en préparation après En salle ?
Oui, je crois que je travaille beaucoup et
vous pouvez
travaille
le dire
un peu
ou
tout
pas
le temps. Comment ?
Vous pouvez le dire ou pas ?
Non, je suis sous le coup de la...
Très bien, l'arc de la réserve. Très bien, on va attendre, en tout cas nous, avec impatience, votre second opus. En salle, comment vous est venue cette idée ? Vous allez souvent dans les fast-food vous-même ?
Pas du tout, non, absolument pas. C'est vraiment plutôt une expérience de travail qui m'a menée à ça. Mais au départ, c'était vraiment en tout cas le souhait d'un récit sur le travail du père, en fait. C'est-à-dire le souhait d'un récit autour de l'usine. Et en fait, comme il y avait une incapacité de ma part de réussir à saisir cette matière-là, qui était vraiment très brute et presque impossible en fait à restituer, ça a été un travail au fast-food pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises qui m'a peut-être permis en fait d'accéder à cette histoire, ou du moins d'avoir un angle vers lequel l'aborder. Et ça, c'était très important. Et ça, moi, je n'imaginais pas écrire un jour sur le fast-food. Et c'est en fait ce travail-là qui m'a permis aussi d'accéder à l'écriture de souvenirs. Alors, pas forcément les miens, mais l'écriture de souvenirs, tout à fait.
Vous avez évoqué le père, Jérôme le père, qui est ouvrier, et donc qui lui aussi est en premier, est aliéné à l'usine, et qui passe ses week-ends à récupérer du matériel dans les déchetteries pour pouvoir les réparer, parce que c'est une famille qui ne roule pas sur l'or, en plus. Il y a de l'observation dans votre livre.
Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai que, en fait, le père et sa récupération, il y a une forme de passion un peu poursuivie après le travail. Parce que le père, dans ce roman, et donc dans la maintenance automobile, il répare les robots. Et en fait, il y a vraiment une sorte de travail filé dans le quotidien, puisqu'en fait, on a cet instant où le père ramène aussi à la maison tout un tas d'objets électroniques à réparer. Et c'est la réparation qui est très importante. Alors même que dans le roman, on observe justement que le père n'arrive pas toujours à réparer ses objets. Et là, on a encore une fois un rapport à l'enfance, puisque les enfants sont sans cesse déçus.
Avec également une plongée dans l'univers des grands-parents. Ils sont pas terribles, ces grands-parents. Hein.
C'est l'accumulation, moi, qui m'intéressait. C'était l'accumulation d'objets et l'encombrement, en fait.
Et je crois surtout que... de dire aux enfants, ne gênez pas. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. c'est des grands-parents fouettards.
Non, mais c'est vrai que c'était un peu une atmosphère sombre, en tout cas. Enfin, moi, c'était surtout sur les objets, en fait. Parce que comme les objets étouffent les lieux et en fait, peuvent faire écho avec la salle du fast-food, puisqu'on a une véritable équipière qui s'attache à ranger, à mettre en ordre, à faire place nette, en quelque sorte. Et à cela répond effectivement les objets, l'encombrement de l'appartement familial et celui des grands-parents.
Il y a également une brève histoire d'amour, enfin, en tout cas un flirt qui se dessine avec un garçon qui va investir notamment dans un immense écran pour pouvoir se divertir.
Alors oui, effectivement, c'est un passage de la fin où en fait on arrive à un instant où la narratrice des souvenirs, on va dire, devient adolescente et arrive dans une nouvelle maison. Alors c'est quelque chose de très différent et qui amène une autre thématique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit en premier quand on rentre chez des gens qu'on ne connaît pas, que ce soit d'ailleurs des amis ou des personnes avec qui voilà, y a plus d'affinité, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment rentrer dans un autre lieu, parce que la narratrice enfant reste quand même beaucoup dans le cercle familial. Il faut en sortir pour se rendre compte aussi un peu de ce dans quoi on évolue, dans quoi on grandit.
Il y a une scène croustillante aussi, c'est quand il faut déménager ce grand écran, où effectivement c'est difficile de passer dans un escalier. Et donc là aussi on se demande, on se dit, Claire, vous avez vécu ce genre d'événement particulier, de trembler un piano ou un grand écran?
Ça je laisse à l'observation de chacun, mais plus précisément c'est un meuble à DVD.
Oui, donc c'est peut-être encore plus gros.
C'est un gros meuble à DVD que la mère du petit ami chez qui on visite veut déménager une après-midi avec ce moment où en fait la narratrice voit ce meuble à DVD neuf dévaler les escaliers et s'écraser en bas avec une sorte d'impuissance de se dire un décalage avec les habitudes et les façons de faire de chaque famille, en fait.
Et comme si l'évasion se faisait sur un grand écran et pas du tout dans la vie courante, que ce soit avec des relations amoureuses ou autre chose. Claire Baglin, on arrive à la fin de notre entretien. La question essentielle, pourquoi est-ce que vous écrivez ?
Je crois que c'est pour sauver ou pour perdre, peut-être pour perdre un petit peu de ce que j'écris en premier lieu, c'est-à-dire souvent je perds des feuilles en fait, donc je crois que c'est intéressant de perdre certains éléments, de vous en souvenir aussi, peut-être pour conserver les blancs du souvenir, on va dire, pour conserver et écrire ce qui s'écrit entre les blancs de ce roman en tout cas, dans l'alternance même du souvenir et du fast-food.
Vous êtes dans la sélection ?
Je suis dans la sélection, oui.
Attention, parce qu'après, il y a l'évaluation. Hein.
C'est ça, et dans l'ordre, oui.
En tout cas, la mienne d'évaluation, elle est ultra positive. C'est un roman qui fait du bien, parce que, bon, on se retourne sur à la fois notre enfance, quelque part, la vie active, évidemment, avec ses conditions très particulières et très pesantes, mais aussi sur la malbouffe. Il y a des phrases terribles sur les frites, sur la manière de les présenter. D'ailleurs, la narratrice se blesse à un moment, mais il faut quand même continuer à travailler. Donc c'est très, très particulier. Et puis elle va glisser aussi sur une pièce savonnée. Enfin bref, il y a des tas de choses qui me font penser que c'est du vécu quelque part, mais vous avez déjà eu la réponse à cette question de manière assez, assez évasive, et on va rester dans ce côté mystérieux. Vous êtes présente sur les correspondances de Manosque, c'est la première fois que vous venez à Manosque?
Oui, tout à fait.
Vous découvrez ce festival?
Oui, avec grand plaisir, et d'ailleurs la maison de Jean Giono aussi, que j'ai pu voir hier.
Avec beaucoup d'émotion, je suppose.
Oui, tout à fait.
Il y a de gros travaux qui vont se passer à cette maison dans les années qui viennent, et c'est très, très important. Vous avez participé à des rencontres dans le cadre du festival aujourd'hui ou...
Ça va être celle de 14h.
À 14h
14h30.
Avec un autre...
Avec deux autres invités, donc c'est Diatti Diallo qui publie Deux secondaires qui brûle au seuil et Adrien Bels chez l'Iconoclaste avec Tibi Lablanche.
Donc très bien, et c'est ça aussi le point fort des correspondances et ces échanges qu'on peut avoir avec les auteurs. Je rappelle votre roman Claire Baglin, en salle, c'est paru aux éditions de Minuit, et on vous souhaite le meilleur pour ce qui est de la littérature.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie. Deuxième invité sur le plateau de Fréquence Mistral, et nous sommes en direct, dans le cadre du Festival des Correspondances, Paulina Panasenko publie « Tenir sa langue aux éditions de l'Olivier. C'est un livre sur les origines et les racines, et pour en parler, quoi de mieux que la langue, bien sûr. Tenir sa langue, dit-on aux enfants pour les inciter au silence. Et dans le titre du roman de Paulina Panasenko, l'expression revêt des sens multiples, du mutisme volontaire ou subi à la perte des racines familiales et linguistiques, et même de l'accent. C'est aussi un livre sur les lourdeurs administratives et juridiques de la France, tout autant que les mutations de la Russie des 20e et 21e siècles. Bonjour Paulina Panasenko.
Bonjour.
Vous le déclarez avec force, ne m'appelez plus Pauline. Nous allons voir pourquoi et comment changer de prénom n'est pas si facile. Ne m'appelez plus Pauline, la narratrice se souvient de son enfance en Russie, toute la famille dans un seul appartement, et elle se souvient aussi du 26 décembre 1991, la chute de l'URSS. La famille quitte la Russie en 1993, elle arrive en France, à Saint-Étienne, surprise et enthousiasme de la petite fille, invitée chez leurs voisins Maurice et Colette, elle découvre une réalité culinaire qui va la marquer, une réalité culinaire française. Je vous lis un extrait de Tenir sa langue. On passe à table, la boîte noire au centre m'intrigue, on dirait un outil de travail de mon grand-père à la datcha. Chez nous, ma mère n'aurait pas autorisé qu'on le pose sur la nappe. Maurice nous le présente, il commence par distribuer à tout le monde une mini-pelle et un petit bout de bois. J'adore avoir ma propre mini-pelle, je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais quoi qu'il arrive, j'adore. Ensuite, Maurice dépose un carré jaune mou sur la mini-pelle et la fait disparaître dans la boîte noire. Colette en fait autant, puis mes parents et ma sœur, moi, je ne bouge pas. Maurice montre la boîte noire et dit « raclette ». Il met un carré jaune mou sur ma mini-pelle et la fait disparaître avec les autres dans la boîte noire. J'aime bien Maurice. Quand il respire, ça fait le même crépitement que celui de mon grand-père. Le carré jaune, c'est du fromage. Quand il fait des bulles, on met une patate dans son assiette et on le verse dessus. Il faut faire très attention à ne pas toucher la mini-pelle avec une fourchette, seulement avec le petit bout de bois, même si c'est moins pratique. Sinon, on raye les mini-pelles et c'est très grave, parce qu'elles font partie de la boîte noire et c'est précieux. Quand on rentre chez nous, je repense encore à la boîte noire. Raclette, je suis pas prêt d'oublier son nom. Même question que pour Claire Baglin tout à l'heure, Paulina, c'est du vécu ?
Oh, bah, c'est une réponse similaire, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que ça pourrait l'être, ça pourrait ne pas l'être. Je ne sais pas si c'est exactement ça qui m'intéresse. Mais si vous regardez en état civil, vous allez trouver des points de croisement avec celui de la narratrice, oui.
Effectivement, vous êtes né en Russie, vous êtes franco-russe. Et en 93, donc 2 ans après la chute de l'URSS, votre famille arrive en France. Vous croyez que c'est à Paris ? Non, c'est à Saint-Étienne. Et là, la petite fille que vous êtes, puisqu'on parle de vous...
On peut parler de la narratrice.
La narratrice.
Parce qu'il s'agit tout de même d'un roman.
C'est bien. Donc restons avec la narratrice. Elle va découvrir la France. Donc là, elle a découvert la raclette, elle va découvrir beaucoup d'autres choses. Elle va découvrir l'école, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Et c'est un moment très particulier, puisque ces premiers contacts qui vont passer par la langue et la prononciation. Alors évidemment, tout à l'heure, on a eu la prononciation de ce mot incroyable, raclette, qui n'est pas écrit de manière très... particulier, très, très, très correct, on va dire, et qui est plutôt en phonétique dans votre livre, de même que Hôpital Nord, par exemple, et puis d'autres choses. Elle apprend une expression utile pour un premier contact, une expression très courante, « ça va ». Oui, mais le mot « ça va » en russe, ça désigne un hibou. Donc elle dit, en France, on doit donc dire « hibou » pour saluer les gens. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, hein, Paulina. Un humour décalé sur fond de langage, passé par le prisme d'un enfant et omniprésent dans Tenir sa langue. C'est un choix, Paulina ?
Le choix de l'humour ?
Oui.
Je ne sais pas, je crois que c'est plutôt le produit d'un décalage qui est celui de la vision de la narratrice qui arrive enfant et qui a... C'est un double décalage, à la fois du regard, du point de vue de l'enfant, mais aussi d'une autre langue. Donc je crois que c'est des produits de friction entre la perception du lecteur et celui de la narratrice.
Avec toujours ce double langage qui est à la fois le français, le russe, le français à l'extérieur, le russe à l'intérieur, on va y revenir. Et puis évidemment c'est un livre aussi sur les racines, puisque bon, elle est déracinée de sa Russie, elle y retourne de temps en temps en tant qu'adolescente, puis en tant qu'adulte, notamment pour un moment difficile, c'est l'enterrement de son grand-père. Donc des moments particuliers et ce va-et-vient très spécial entre deux pays, entre deux civilisations, entre deux langues, deux cultures, de quoi se perdre.
Oui, alors c'est-à-dire que c'est une petite fille qui est écartelée entre deux langues, entre deux pays, et aussi qui est mise face au danger d'oubli de la langue maternelle. Donc il faut résister à cet oubli, en même temps apprendre la langue française, et la question de la trahison est aussi au centre, c'est-à-dire comment apprendre une langue étrangère sans oublier la langue maternelle, mais aussi comment... À partir de quand une langue étrangère cesse de l'être ? Et une fois qu'une langue n'est plus étrangère, est-ce qu'elle en devient pour autant maternelle ?
Donc c'est une vraie question, une question qui touche bien plus qu'à la langue. C'est l'identité, c'est la culture, c'est la famille, c'est beaucoup de choses et qu'on voit en filigrane aussi dans votre livre, la linguistique et le langage étant la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi des expressions magnifiques. Alors par exemple, si je vous dis à la maternelle chic, la terminaison chic qui est employée pour adoucir les mots et ce qu'ils représentent, ça c'est la mère qui souvent met un chic pour pouvoir faire admettre à sa fille par exemple d'aller à la maternelle. Et donc à la maternelle chic, elle est à part, étrangère, et vous connaissez la cruauté des enfants, hein. Elle se lie d'amitié et complicité avec un Français, Philippe, lui aussi rejeté par les écoliers car il est bègue. Tiens, un problème de langue, là aussi. Et au fur et à mesure, c'est le grand mélange et c'est un langage imagé qui nous l'explique. Je vais vous demander, Paulina, de lire un extrait de votre roman parce qu'il y a des mots russes et mon russe est beaucoup trop sommaire. Alors vous parlez de... justement de ce dilemme entre les mots et la langue.
Ma mère veille sur mon russe comme sur le dernier œuf du coucou migrateur. Ma langue est son nid, ma bouche, la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale, le flux migratoire, les entrées et sorties des mots russes et français. Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe, français, russe, français. Sentinelle de la langue, elle veille au poste frontière. Pas de mélange. Elle traque les fugitifs français hébergés par mon russe. Ils passent, dos courbés, tête dans les épaules, se glissent sous la barrière. Ils s'installent avec les russes, parfois même copulent, jusqu'à ce que ma mère les attrape. En général, ils se piègent eux-mêmes. Il suffit que je convoque un mot russe et qu'un français accourt en même temps que lui. Vu ! Ma mère les saisit et les décortique comme les crevettes surgelées d'Ochan Centre-Dieu. On ne dit pas « gravatsa », on dit « parkavatsa » ou « garer la voiture ». La prochaine fois que « gravatsa » arrive, je lui dis « non, pousse-toi, laisse passer « parkavatsa ». On ne dit pas « manjevatsa », on dit « stalavatsa » ou « manger ». Attention, attention, sinon tu vas finir comme les fils Morkovine. Je les ai vus, les fils Morkovine. Je sais ce que je risque. Les fils d'un collègue de mon père, des jumeaux, à peine plus âgés que moi. Arrivés de Saint-Pétersbourg, ils ne parlent plus vraiment le russe ni tout à fait le français. Ils cherchent leurs mots, ils ont un accent bizarre, des consonnes trop dures, des voyelles trop ouvertes. On dirait qu'ils sont en train de muter. Ils ont déjà la langue dans le formol, on va les mettre en bocal et les observer. Je ne veux pas muter, mais je n'ai rien vu venir. Il fallait faire rentrer le français, et maintenant qu'il est là, on me dit qu'il va me changer en mutant Morkovine.
Merci Paulina, vous avez compris que pour moi c'était difficile de lire cet extrait, vous le lisez remarquablement bien. Votre russe est bien maîtrisé aussi, ce qui ne m'étonne pas du tout. Alors dans cet extrait, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est des images qui nous font penser à Lampedusa, qui nous font penser à l'île de Lesbos, avec des migrants qui débarquent et qui sont soit rejetés, soit intégrés d'une certaine manière, en tout cas qui essaient de résister. C'est une image aussi qui vous a servi pour ce livre ?
Pas vraiment, non. Je pense que c'est quand même des situations très différentes parce que il s'agit dans le roman, cette famille émigre pour des raisons professionnelles et économiques et ils le font dans des bien meilleures conditions que celles que vous évoquez. Je crois que ce sont des formes de migration très différentes.
Alors dans cet extrait de texte aussi, mis à part cette situation particulière, on voit le problème et même s'il est traité avec humour, c'est pas si drôle que ça en fait.
Oui, non, c'est pas vraiment si drôle que ça, mais je crois que c'est aussi la nécessité de trouver son propre endroit face à l'injonction de choisir. C'est-à-dire qu'on lui demande à la narratrice, d'abord petite fille, puis jeune femme, on lui demande souvent, alors où est-ce que c'est le mieux ? Est-ce que tu es plutôt russe ou française ? On lui demande en permanence de choisir et résister à cette injonction demande une énergie, une conviction considérable.
C'est un dilemme pour elle ?
Ah oui, je crois que c'est une forme d'écartèlement parce qu'en fait, tout le parcours qu'elle va faire, c'est de comprendre qu'en fait, il ne faut pas se laisser enfermer par cette question.
Avec donc russe à l'intérieur, français à l'extérieur. Quand on sort, on met son français, dit-elle à un moment. Et puis, il y a un passage terrible aussi dans votre livre où elle se rend compte en Russie qu'elle a perdu son accent russe. Et là, elle se dit, oh là là il me manque quelque chose, comme s'il lui manquait une jambe.
Elle perd son accent russe en français, c'est-à-dire qu'elle parlait français avec accent, puis un jour elle n'a plus cet accent, et là la question de la trahison se pose de façon aiguë, puisque ses parents, eux, ont encore un accent. Et donc, elle a l'impression de trahir quelque chose en se distinguant des siens par la parole, puisque la parole est aussi, bien sûr, une forme d'appartenance.
Et une forme d'apparence, forcément aussi. Alors les années passent, le prisme de l'enfance disparaît pour laisser place à l'ado, puis l'adulte qui retourne en Russie, mais doit être prudente. Elle risque d'être enlevée et rançonnée si on apprend qu'elle vit en France. Paulina, vous avez vécu cette situation ou c'est inventé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous savez, c'est une composition, c'est un roman avec il y a de l'un et de l'autre. J'ai fait des recherches et je me suis nourrie aussi de sensations personnelles, mais c'est une composition.
Je vais être plus précis. La mafia russe peut tomber sur quelqu'un qui vit en France, l'enlever et puis demander une rançon ?
Alors, là, dans le roman, je fais plutôt allusion aux années 90. C'est le moment où la narratrice est quand même plutôt encore une enfant. Et dans les années 90, il est vrai qu'il y avait beaucoup d'enlèvements et de demandes de rançon parce que c'était un moment de crise économique aiguë dans le pays. Et il y avait effectivement beaucoup d'enlèvements. Et donc, c'était une inquiétude forte chez beaucoup de parents, mais aussi chez beaucoup de jeunes femmes. C'était une pratique en cours, oui.
D'où l'interdiction de dire « je vis en France, surtout pas », et dire « je suis russe comme vous », etc., etc., quoi.
Alors, on peut l'expliquer comme ça, et puis aussi cet interdit vient des grands-parents qui... On peut aussi y voir une certaine forme de... ils n'acceptent peut-être pas tout à fait que leurs enfants aient émigré, qu'ils aient quitté le pays.
À la rentrée de quatrième, je reçois un courrier de Lionel Jospin, c'est le Premier ministre. Ma sœur dit, c'est pas lui qui a signé, c'est une machine. N'empêche, dans le courrier, il écrit, française de plein droit par naturalisation du père, autorisée officiellement à s'appeler Pauline. Mon père dit, c'est bien, ça te donne le choix. Maintenant, c'est officiellement Paulina, dedans, et Pauline, dehors. Difficile de faire cohabiter les deux. Après l'avis du Premier ministre.
Alors finalement, cet avis du Premier ministre vient officialiser cette scission entre le dedans et le dehors, entre Pauline et Paulina. Donc finalement, c'est quelque chose qui vient refléter déjà un écartèlement intérieur
qu'ensuite il va falloir déconstruire, parce que la distinction des langues, c'est le fait de parler français à l'école et russe à la maison. La narratrice, elle peut parler toutes les langues, donc c'est juste une façon de s'adapter à son auditoire. Mais elle, ensuite, le défi, ça va être de surmonter cette scission intérieure.
On voit bien comment vous avez placé le décor sur votre livre, où il y a effectivement une part de fiction, mais aussi une part de vie réelle, et la vôtre. C'est très difficile, en fait, dans une société, de pouvoir dire « j'ai des origines différentes, diverses, et en plus je veux qu'on les respecte ». Vous avez mis plusieurs années pour faire retourner votre véritable prénom d'origine, c'est-à-dire Paulina, qu'on prononce Palina en russe, si j'ai bien lu votre livre, et donc effacer ce Pauline français. C'est un parcours du combattant que vous avez vécu.
Oui, alors il y a des parcours du combattant plus difficiles que celui-ci.
C'est vrai. Hein.
Mais effectivement, il y a une forme de lourdeur administrative qui est liée au fait que ce soit une demande de récupération de prénom de naissance et non pas juste de changement de prénom. C'est-à-dire que si on s'appelle Paul et qu'on veut s'appeler Jacques, ça sera plus simple, la démarche sera beaucoup plus simple que si on a un prénom qui a été francisé et qu'on veut récupérer son prénom de naissance.
Je vais être encore plus clair, si on s'appelle Rachid et qu'on veut se transformer en Paul, c'est possible. Par contre, si on s'appelle Paul et on veut se transformer en Rachid, c'est un petit peu différent pour des raisons sociologiques, culturelles également, et administratives.
Alors, c'est pas uniquement lié au prénom, c'est aussi lié au fait que le prénom ait été francisé au moment de l'obtention de la nationalité française. Et du coup, le fait de vouloir récupérer son prénom de naissance est perçu, en tout cas par la procureure dans le roman, comme un rejet, comme une remise en cause de cette nationalité française, ce qui évidemment n'est pas le cas pour la narratrice.
Et ça veut dire que l'État aussi provoque votre intégration dans la société française, en quelque sorte.
Je crois que c'est l'illusion qu'en rejetant de la langue un prénom qui lui semble, qui selon lui n'est pas français, cela va faciliter une intégration. Je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est pas tellement un mot que j'aime particulièrement. Et évidemment, c'est illusoire.
Alors la narratrice perd petit à petit son russe et surtout l'accent, mais elle garde amour et admiration pour ses grands-parents et surtout son grand-père, dont elle suivra les obsèques avec curiosité, parce que vous savez, ça ne se passe pas comme en France, en Russie, les obsèques. Et elle se souvient juste jusqu'à la fin du livre d'une chanson de la Révolution que chantonnait son aïeul, « Les fenêtres de Moscou » de Léonide Outiosov. Un chanteur très connu en Russie.
Oui, mais alors c'est pas tout à fait une chanson de la Révolution, c'est juste une chanson qui était ensuite devenue très populaire parce qu'elle a été utilisée dans un film soviétique. Et
pour valoriser quoi donc? La Révolution.
Alors il n'est pas exactement question de la Révolution.
C'est pas le cas de la chanson en question, mais c'est le cas plutôt de ce chanteur Léonide qui est.
Oui, alors c'est un chanteur soviétique, lui il est né en Ukraine, c'était un juif d'Ukraine et il a dû changer son nom lui aussi, puisque ce n'était pas, on lui a dit que ça n'allait pas être possible de se produire avec son nom juif. Et donc il a.
C'est intéressant parce qu'on peut faire un parallèle avec la narratrice.
Je ne l'ai pas choisi pour rien, bien sûr. Oui. Et effectivement, c'est un chanteur qui écoute beaucoup son grand-père.
Et c'est une belle chanson en plus, magnifique, c'est très nostalgique sur les fenêtres de Moscou. C'est un livre qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est votre premier roman, je le rappelle.
Oui, je crois que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, oui.
Mais du plaisir aussi.
Aussi, oui.
Aussi. Alors au-delà de la linguistique, Paulina, ce qui nous interpelle, ce sont ces années de procédure pour avoir ce prénom que vous voulez. Là, il y a du vécu, on en a déjà parlé, mais comment vous, avec un œil à moitié extérieur, je pèse mes mots, vous avez vu cette lenteur, il a fallu vous adresser à une avocate pour pouvoir faire avancer le projet, vous avez eu affaire à une procureure qui vous a expliqué certaines choses. Ça a duré plusieurs années. Comment on vit ça?
Bah, c'est vrai que c'était long, mais cette procédure-là, ce qui m'intéressait pour le roman, c'était moins cette lourdeur administrative qui finalement est propre aussi à d'autres pays, en France certainement, mais aussi d'autres pays, que ce que ça représentait. C'est-à-dire que ça m'intéressait de me demander pourquoi le prénom Paulina semblait tellement dangereux pour la procureure. Pourquoi ce rejet? Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la langue et par rapport à cette histoire de obtention de nationalité? Donc pour moi, ça a été plus l'objet d'une interrogation dans ce sens.
Une petite faveur, Paulina, prononcez-le à la russe, s'il vous plaît, votre prénom.
Paulina.
Oh, que c'est joli. Que c'est joli. Vous êtes présente ici même à Manosque pour les correspondances de Manosque. La première fois que vous venez également ici?
Oui, c'est la première fois, oui.
Vous avez déjà participé à des rencontres ou ça va avoir lieu?
C'est tout à l'heure, à 18h, avec Maria Larrea. C'était prévu sur une place. Je ne sais pas si elle est couverte, si ce sera possible.
18h, je pense que c'était à la place d'Herbès. Donc, on espère... non, place Marcel Pagnol, bon, on espère que ça va bien se passer au niveau du ciel et qu'il ne se mette pas à pleuvoir à ce moment précis. Vous allez être interviewé par Maya Michalon, qui est une excellente modératrice. Et Maria Larrea aussi pose des questions d'origine sur son livre magnifique, là où c'est un titre assez compliqué. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. C'est un livre sur les origines, plus que sur la langue. Vous allez vous retrouver certainement en face. Vous avez lu le livre de Maria?
Oui, je l'ai lu, bien sûr, oui.
Donc ça va être intéressant de croiser vos regards sur ça.
Absolument.
Même s'il y a un côté plus mystérieux peut-être chez Maria et plus surprenant que dans votre livre. Ça va être une rencontre passionnante. C'est tout à l'heure à 18h, donc place Marcel Pagnol si tout va bien. D'autres manifestations, vous allez suivre des choses
Oui, alors demain j'ai un apéro littéraire.
Quelle chance.
À 11h avec Adrien Bels.
Très bien, donc demain ce sera à ce moment-là place d'Herbès à Manosque. Merci beaucoup, Paulina Panasenko. Tenir sa langue, c'est un premier roman subtil et malicieux qui, pour moi, en appelle d'autres. J'attends avec impatience. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Et nous arrivons à la fin de cette émission. Juste vous rappeler qu'en fonction des conditions météorologiques, il y a certaines manifestations qui sont reportées dans d'autres endroits. Tout cela est affiché dans les rues et sur les places de Manosque. Juste un mot également sur les soirées d'aujourd'hui même, de ce samedi. La lecture concernant les correspondances avec les écrivains de François Truffaut. C'est par Nicolas Bouchot, c'est à 21h ce soir au Théâtre Jean Le Bleu. Et puis ce sera suivi en soirée par une soirée et un concert littéraire qui va drainer, je l'espère, beaucoup de jeunes. C'est Malik Djoudi qui sera sur la scène de la capsule à Manosque. Ou plutôt non, il sera carrément sur la grande salle du Théâtre Jean Le Bleu avec Jessie Chapuis qui va assurer la lecture pour un concert littéraire très particulier. Voilà, c'est la fin de ces émissions consacrées aux correspondances. Profitez de ce magnifique festival sur Manosque et vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos émissions sur notre site fréquencemistral.com. Je en profite pour remercier Louis à la régie et Manu qui l'a assisté et toute mon équipe de manière générale pour ces émissions concernant les correspondances de Manosque. Et merci aussi à nos invités tout au long de ces émissions qui ont su jouer le jeu de la curiosité. Merci, à bientôt.